tout à l'heure, on résume souvent la convoitise au bien matériel, à l'argent, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est encore là une vanité, dit l'Ecclésiaste. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux ? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Par contre, le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Sous-entendu, il devrait être rassasié, il a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais malgré tout, il n'arrive pas à dormir, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est un jeu de dupes, la convoitise. C'est une quête sans fin. Ça fait penser au jour sans fin. Elle nous conduit à vouloir toujours plus, sans jamais être satisfait, pour arriver à dire, enfin, ben, ça y est, j'ai assez. Il y a l'image des sangsues aussi qui en veulent toujours plus. Jérémie a illustré cela par l'image des citernes crevassées. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset, dans Jérémie 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Ils m'ont abandonné pourquoi ? Ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées qui retiennent même pas l'eau. C'est presque comique. Malheureusement, c'est tragique. Un autre symptôme de cette maladie, c'est l'impatience. Et avec l'impatience aussi l'inquiétude qui va avec. En effet, celui qui cède à la convoitise, il s'habitue quelque part à répondre immédiatement à ses moindres besoins et désirs. Il ne sait plus attendre patiemment, il est sans cesse agité par toutes sortes de désirs. Et nous sommes dans un monde qui facilite pas, enfin, qui nous aide pas beaucoup par rapport à la convoitise, et il nous encourage plutôt à la convoitise, et c'est pas étonnant, parce que c'est le monde. Mais de plus en plus, et surtout depuis l'avènement d'Internet au siècle passé, je veux quelque chose aujourd'hui, ben, je clique et puis je l'ai, quasiment. Cette société ne nous forme pas à la patience, à la patience confiante en Dieu. Parfois, quand on attend un petit peu, on finit par se rendre compte que ce truc qu'on voulait absolument, ben, finalement, on n'en a pas besoin. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, maintenant je commence à avoir pris des leçons et je me dis, attends avant de le prendre ce truc-là, attends quelques temps et tu verras si dans 3-4 semaines, tu en as toujours besoin, c'est que vraiment tu en as besoin. C'est une leçon qu'on tire de l'expérience. Et il est souvent bon de savoir attendre. Mais je sais qu'on n'aime pas attendre. Et notre société ne nous forme pas à ça. Savoir attendre pour quelque chose, ça donne à Dieu la possibilité de nous donner cette chose en son temps parfait. Et puis de nous former aussi dans l'attente, à nous confier en lui. Ça peut être un bien matériel dont nous pensons avoir besoin, ça peut être un travail, une augmentation de salaire, un conjoint, etc. Toutes sortes de choses dont nous avons besoin, et Dieu sait que nous avons besoin. Alors la convoitise aussi, elle étouffe la vie spirituelle. Pourquoi elle étouffe la vie spirituelle ? On le lit dans Marc 4, versets 18 à 19, c'est un extrait de la parabole du semeur. Je ne vais pas la lire en entier, je vais juste lire ce passage, donc Marc 4, 18 à 19. Certaines personnes reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La convoitise du monde peut rendre notre esprit agité et préoccupé et l'éloigner petit à petit du vrai Dieu. En conclusion de cette parabole, Jésus dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Autrement dit, quand vous écoutez, soyez attentifs, faites taire toutes les voix, les agitations qui sont dans vos pensées, tous les désirs qui s'expriment, faites silence devant Dieu pour vraiment l'écouter. Enfin, la convoitise, un de ses derniers effets, c'est qu'elle elle engendre de nombreux péchés, de nombreux autres péchés, parce que c'est une porte ouverte dans notre vie, et on en est tous là. Je ne me mets pas au-dessus de vous ce matin. 1 Timothée 6, versets 9 à 10 nous dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir, ou encore plus généralement, plus globalement, ceux qui cèdent à la convoitise, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ça peut aller loin. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je le rappelle, il ne s'agit pas seulement de l'amour de l'argent, mais là c'est un exemple. Mais la convoitise revêt bien, bien d'autres aspects. Alors on a vu donc ce qu'était la convoitise, on a vu ses effets, on a vu qu'elle peut produire l'insatisfaction en nous. Sûrement pas la satisfaction en tout cas, qu'elle produit l'impatience aussi, l'inquiétude qui va avec, qu'elle étouffe notre vie spirituelle, et enfin qu'elle nous expose à de nombreux autres péchés. Alors qu'est-ce que c'est qui nous amène à la convoitise? Quelle est la source de ce mal dans notre vie? On a déjà vu que la convoitise était une forme d'impatience, un manque de confiance en Dieu, Dieu qui est le donateur. Et c'est donc l'incrédulité qui est la source de la convoitise. C'est tout simplement l'incrédulité, et c'est pas forcément évident, mais c'est quand on y pense, on voit le lien entre l'incrédulité et la convoitise. C'est l'incrédulité qui est à l'origine de la convoitise, le manque de foi en Dieu. C'est non seulement manquer de foi dans la toute-puissance de Dieu, sa capacité à me bénir, à prendre soin de moi, mais c'est aussi le manque de confiance dans sa volonté à prendre soin de moi parce qu'il m'aime. C'est-à-dire, c'est une incrédulité à deux niveaux. On doute que Dieu soit capable et on doute que Dieu veuille nous bénir. Même un chrétien peut être atteint de cette maladie, et on est tous concernés. Si c'est le cas pour moi, alors je dois avoir pour réflexe de demander à Dieu d'augmenter ma foi. Matthieu 21, verset 22 nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Jean 16, 23 à 24 nous dit « en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez. » Et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors plutôt que de céder à la convoitise, en nous servant nous-mêmes par nos propres moyens, nos propres efforts, à cause de notre incrédulité, demandons plutôt à Dieu la chose dont nous avons besoin. Sachons attendre patiemment, et dans la foi qu'il nous la donne. Et si c'est sa volonté, il nous la donnera. Philippiens 4, 19 à 20 nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ça rejoint beaucoup ce qu'a dit Luc tout à l'heure au moment de la Sainte Cène. Nous avons donc vu la convoitise, ce que c'est. On a vu sa cause, ses effets, sa cause, qui est l'incrédulité. Et on est malheureusement tous plus ou moins atteints par cette maladie, parce que nous sommes tous plus ou moins, entre guillemets, des croyants incrédules. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des croyants incrédules. Nous pourrions tous dire, nous aussi, cette phrase qu'a prononcée le papa d'un enfant muet quand il s'est crié auprès de Jésus, « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. » Ça semble un peu paradoxal, mais on peut comprendre ce que ça veut dire. Alors, dernier point de ce message, c'est le remède, parce qu'il y a un remède. Merci Seigneur, et je vais vous le donner. Le remède à la crédulité, Ben, c'est simple, c'est la foi. Et la foi, c'est rien d'autre que la confiance en Dieu. La confiance dans la grâce à venir, dans le fait que Dieu, il veut me faire grâce, il va me faire grâce parce qu'il m'aime. Si l'incrédulité entraîne la convoitise, mais la confiance, la foi, elle va entraîner quoi? L'inverse de la convoitise, c'est-à-dire les dames, elles ont dû voir ça. Le contentement, la satisfaction, le contentement. Le contraire de la convoitise, c'est le contentement. C'est ce qui nous aidera à combattre la convoitise. Hébreux 13, verset 5 nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il parle, il faut l'écouter. Le contentement, c'est une source aussi de richesse et de joie. 1 Timothée 6, versets 6 à 8 nous dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Le contentement est même capable de faire face à l'épreuve, contrairement à la convoitise qui nous laisse complètement démunis devant l'épreuve. La faim, la soif, la tribulation, l'angoisse, le péril n'ont pas raison de lui. Paul nous partage son expérience dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Il nous dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et puis il termine en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors d'après Paul, ça s'apprend. J'ai appris à être content. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Mais je pense que c'est à force de marcher avec le Seigneur qu'il nous apprend ça. Il nous apprend à lui faire confiance. Enfin, le contentement, il procure une vraie satisfaction. C'était le thème de la journée des dames. Trouver sa satisfaction et son bonheur en Dieu. Jésus répond à la femme samaritaine dans Jean 4, versets 13 à 14. Quiconque boit de cette eau que tu es en train de boire, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, il ne s'agit pas de venir à Jésus, d'être sauvé, et puis basta, c'est fini. Voilà, j'ai le cachet, j'ai le tampon. J'ai plus besoin de rien, et je suis satisfait. Non, je pense qu'il s'agit plutôt de venir à Jésus, de revenir à Jésus, et de venir encore à Jésus, tous les jours de ma vie, sans cesse. Parce que la vraie satisfaction, elle est en lui, et en lui seul. Jésus, c'est comme une source d'eau vive. Et c'est là qu'on peut vraiment étancher notre soif, jour après jour. Pas seulement aujourd'hui, puis c'est fini, mais tous les jours. C'est une sorte d'addiction, entre guillemets, positive. Une dépendance saine qui fait du bien et non du mal. Qui satisfait pleinement. Venir à Jésus chaque jour de ma vie, c'est trouver l'épanouissement total. Mais il faut venir à lui et y rester, il faut demeurer vraiment dans sa présence. Il ne s'agit pas seulement de lui rendre visite, de prendre ma dose, de repartir. Jésus, c'est une source d'eau vive, et il faut rester au pied de cette source et ne plus bouger, il faut rester, demeurer. On a parlé de ça tout à l'heure, demeurer en Jésus. Je crois que c'est Johan qui nous a partagé ça. C'est ça le vrai secret de la satisfaction et du contentement. Venir à Jésus, ça satisfait de manière durable, sur le moment et par la suite, et toute la vie. Le monde et sa convoitise, par contre, ils donnent satisfaction sur le moment, et puis ils laissent insatisfait avec un vide. On reste sur sa faim, Il satisfait temporairement et laisse même un goût amer. Jésus, lui, il satisfait pleinement et durablement. C'est un peu comme manger équilibré. C'est le bon moment, je crois, de parler de manger. Si on écoute nos envies, nos convoitises, on va avoir tendance à aller vers du gras et du sucré. Hein, je pense qu'on connaît tous ça. Tout ce qui est mauvais pour notre santé, quoi. Et ça nous laissera, sur le moment, satisfaits, mais rapidement en mauvaise santé, au bout d'un moment. Par contre, si on écoute notre conscience, on ira plutôt vers les aliments équilibrés, qui vont satisfaire notre faim et qui vont contribuer à notre bonne santé. De la même façon, me tourner vers le monde, c'est satisfaire ma convoitise sur le moment, c'est me faire mal à long terme, par contre. Alors que me tourner vers Jésus, c'est me tourner vers ce qui est bon pour moi. À force de me tourner vers une nourriture équilibrée, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais habituer mon corps à réclamer de bonnes choses. Et de même, à force de me tourner vers Jésus, je vais habituer mon esprit à réclamer ce qui est bon. Et je vais être pleinement satisfait. Je dois chercher chaque jour la communion avec Jésus. Et rien laisser se mettre ou mettre de la distance entre lui et moi. C'est vite fait. Cette communion, elle est si précieuse, elle a été acquise au sang de Jésus sur la croix. Elle est précieuse, il faut vraiment la garder, tout faire pour conserver cette communion avec Dieu, avec Jésus. Alors voilà, pour finir, si je suis insatisfait aujourd'hui, ben je peux demander pardon au Seigneur, et je peux lui demander de me montrer pourquoi je ne trouve pas ma satisfaction en lui ? Pourquoi j'ai besoin d'autre chose encore ? Pourquoi j'ai besoin d'aller ailleurs ? Je peux lui demander de me combler de sa présence, de m'aider à cultiver une communion avec lui de tous les jours, par la prière, par la méditation de sa parole, en obéissant aussi, et en passant du temps aussi avec mes frères et sœurs. La journée d'hier des dames, je pense, leur a fait beaucoup de bien dans ce sens-là. De trouver la communion et de conserver cette communion avec Jésus. Je voudrais terminer avec un psaume. Et là, je triche un peu parce que je l'ai piqué à la journée des dames, parce que c'est Uri qui me l'a donné hier soir. Mais je l'ai trouvé très beau pour un peu comme un feu d'artifice final de ce message. Donc je vais lire avec vous le psaume 36, versets 5 à 9. Juste un extrait de ce psaume. Psaume 36, versets 5 à 9, et vous pouvez prendre ce psaume pour méditer dessus et voir combien on a tout pleinement en Jésus-Christ, on a tout pleinement en Dieu. On peut être satisfait en lui. Psaume 36, versets 5 à 9. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice, elle est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Et puis j'aime beaucoup les deux derniers versets. Il se rassasie. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Voilà, j'aimerais terminer en priant. Oui, Seigneur notre Dieu, te demandons tous pardon d'être un peu des croyants incrédules, de ce que nous manquons de foi, nous manquons de confiance en toi, tout simplement. C'est pas notre foi qui est petite, c'est que ne croyons pas que toi, tu sois celui que tu dis que tu es. Ne croyons pas que tu sois tout puissant, capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin, mais aussi désireux de nous bénir. Et nous te demandons pardon pour ça, Seigneur. Te prions de nous aider vraiment à cultiver cette relation avec toi qui a coûté si cher à Jésus. La possibilité qu'on puisse être en communion avec toi, elle est si précieuse, Seigneur, et nous voulons vraiment entretenir cette relation au quotidien avec toi parce que tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es la source de la vie, la source des eaux vives. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être content et satisfait en toi et à savoir être patient dans tous nos besoins que tu connais, tu les connais parfaitement. Je te prie de bénir mes frères et sœurs ce matin et de les encourager par ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.